voilà arrivé au chapitre 4 que j'ai intitulé la rédemption et l'héritage. Et j'espère que ceux qui nous écoutent à travers les différentes plateformes pourront lire ce chapitre 4 avant d'écouter ce que Dieu a à nous dire dans ce chapitre 4. Alors, bien sûr, je n'ai pas toutes les réponses. Ce livre est tellement riche de choses, tellement profond qu'il y a encore des choses à découvrir. Mais j'aimerais vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur et ce que j'ai aussi découvert dans mes études. Donc simplement, pour rappel, simplement les trois petits chapitres avant de terminer le chapitre 4 ou la scène 4. Le premier chapitre, simplement rappel, c'est « Le péché rend désert, mais la repentance fait fleurir ». C'est le retour de Naomi en Juda et la décision de Ruth. Simplement, un petit verset concernant ce chapitre 1 dans Matthieu 16, 25. Il est dit « En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Le chapitre 2, c'était la providence de Dieu, la rencontre de Ruth et de Boaz. C'est l'arrivée de Ruth, la Moabite, dans le pays de la promesse, Juda. Et Boaz nourrit Naomi, Israël, la belle, la douce, par le moyen de Ruth, qui représente l'Église. Et j'aimerais simplement ajouter un petit texte, Ésaïe 28, verset 11. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et par une langue étrangère que l'Éternel parlera à ce peuple. Et enfin, le chapitre 3, le chemin de la rédemption, l'obéissance de Ruth. Matthieu 15, verset 25, « Mais elle vint se prosterner devant lui et dit, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens, les étrangers, mangent les miettes qui tombent de la table de leurs mains. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. » Donc nous sommes dans la scène 4. Moaz monte à la porte de la ville et il s'y arrête. C'est le lieu de rencontre. C'est le lieu des arrangements, des prises de décision, des négociations. Et cela se passe devant témoins. Et j'aimerais parler d'abord du lieu. C'est très important, le lieu. Il nous est parlé que c'est devant la porte. Devant la porte, ce n'est pas au milieu de la porte. Ce n'est pas après la porte. C'est à l'extérieur de la ville, mais quand même devant la porte. Et cette fois, ce n'est plus l'engagement de Naomi et de Ruth qui fera basculer l'histoire vers une rédemption totale, mais un autre engagement. Ce basculement commence par un lieu. C'est le lieu où l'on réclame, où l'on plaide son droit. C'est comme une frontière qui permet de régler ce qui est en droit de passer, ou d'être refusé. C'est le lieu où l'on juge de tout, où l'on constate qui dit la vérité et qui est faux. C'est un lieu de croisement, de sacrifice, où l'on perd ou bien l'on gagne un marché, une négociation. C'est le lieu de la défaite, mais aussi de la victoire, où les masques tombent. Dans Hébreux 13, verset 12, il est dit ceci. Voilà pourquoi Jésus aussi, afin de procurer la sainteté au peuple au moyen de son propre sang, a souffert à l'extérieur de la ville. Vous savez, quand il y avait le tabernacle, on égorgeait l'agneau, et l'agneau ensuite, quand on présentait à l'intérieur le sang de l'agneau, eh bien l'agneau était brûlé à l'extérieur, égorgé et brouillé à l'extérieur du tabernacle. C'est pour ça qu'il est dit, il a souffert à l'extérieur de la ville. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a deux personnages importants, deux oppositions. Il y a deux antagonistes sur ce lieu de passage, et ils sont en opposition totale, comme Dieu est en opposition avec les esprits du monde, avec Satan, avec une vision et une attitude totalement différentes. Le premier ne se donne aucun repos, comme on l'a lu simplement à la fin du chapitre 3. Il monte à l'assaut. Pourquoi il monte à l'assaut ? Give her a sweet. Parce qu'il aime Ruth. Parce qu'il aime Ruth. Vous savez, je pensais, moi, quand je suis tombé amoureux de ma femme, il n'y avait rien qui comptait. Je ne me suis donné aucun repos. Et ça, c'est l'amour. Si vous tombez amoureux de quelqu'un et que vous vous donnez du repos, etc., c'est que vous n'êtes pas vraiment amoureux. Mais je ne me suis donné aucun repos. Je n'avais qu'un but. Et il pouvait y avoir toutes sortes de bruits, toutes sortes de choses qui pouvaient me décourager. Je n'avais qu'un but pour ma belle. Et je crois que Jésus, qui est représenté par Boaz, ne s'est donné aucun repos. Alors que l'autre est de passage, il n'a donc pas d'égard, l'autre, bien sûr, qui, on l'appelle un tel, envers Ruth, l'étrangère, car il est déjà en possession de ce droit. Il essaye de se dérober, mais Boaz l'interpelle. Boaz est décidé d'obtenir ce qu'il veut, car il aime. Il veut défendre la veuve, l'orpheline, l'affligée, l'esclave, celle qui a un héritage lourd. Il combat pour ceux et celles qui veulent revenir pour lui, pour ceux qui viennent à lui. Boaz est l'image de Jésus, l'homme spirituel. Il nous aime. Il s'intéresse à notre avenir, malgré notre condition. Il veut déposséder l'ayant droit. Il n'a qu'un but, ouvrir une brèche, une porte. Il désire donner un héritage. Alors que l'homme charnel, représenté par l'autre parent, a des droits sur nous tous. Il a des droits sur Ruth. Ce monde appartient à Satan. Comme Christophe nous l'a dit si bien, dimanche dernier, tout lui appartient depuis la chute de l'homme. Et il a pour seul et unique objectif, c'est de détruire les œuvres de Dieu. Et sachant qu'il est le premier ayant droit de rachat, il n'a donc aucun égard envers tous les hommes. Le peuple de Dieu d'abord, et les étrangers ensuite. Le monde, vous savez, le monde n'en a que faire de nous. Il n'a aucun amour, aucun désir de nous voir vivre pleinement dans la paix, dans la joie, dans la sérénité, dans cette espérance d'un salut éternel, de quelque chose que nous avons perdu. Il n'a aucun héritage véritable pour nous. Le seul héritage qu'il offre est de nous laisser esclaves en nous faisant croire en une sécurité qui semble confortable, mais qui nous enferme, nous éloigne de quelque chose de plus grand, de plus noble, de plus précieux que l'or et l'argent. Il finit par nous éloigner pour l'éternité de l'héritage de Dieu. Ça me rappelle un petit peu les magiciens. Quand Moïse est venu à la rencontre du Pharaon avec Aaron, et donc il y avait des magiciens, et ils ont fait des tours de passe-passe, et tout ça réconfortait certainement les Égyptiens. Et bien voilà la proposition du monde. Ce sont des tours de passe-passe. N'oublions pas que Satan est le père du mensonge. Tout n'est que mensonge. Cette différence et cette place entre les deux antagonistes est précisée dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 46 et 47. On va voir cette différence dans le Nouveau Testament. C'est Paul qui parle. Il dit « Le dernier Adam est un esprit que communique la vie. » C'est Jésus. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier. C'est le naturel, l'homme charnel. L'homme dans la nature pécheresse. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. Et Boaz est du ciel. L'homme à l'origine était parfait. Il était en communion avec Dieu, en parfaite harmonie, jusqu'à ce qu'il devint sous la domination de celui qui l'a fait chuter. Alors Satan est devenu le premier ayant droit de rachat. Vous savez, il l'a acquis par la désobéissance de l'homme, par le péché qui est entré en l'homme. Mais, Dieu avait une stratégie. Dieu avait un stratège, le sacrifice, par la grâce et aussi par la repentance. Boaz, dans ce troisième point, il détruit littéralement les plans de rachat du prétendu acquéreur. Il les expose à la vue de tout le monde. C'est grâce au fruit du sacrifice, puis de la repentance. L'acte de possession est d'abord fragilisé, ébranlé, puis annulé. Parce qu'il marque une incompatibilité avec la nature du prétendu acquéreur. Et donc celui-ci est exposé. Au verset 5, il déclare « Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne peux pas l'exercer. » Il ne peut pas l'exercer. C'est impossible, après ce que Boaz démontre qu'il l'exerce. Regardons dans Colossiens, chapitre 2, versets 14 et 15. C'est une référence. Je pense que Paul fait référence à Ruth ici. Colossiens 2, versets 14 et 15. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. S'il n'y avait pas eu la croix, il n'y aurait pas eu d'annulation. Ce personnage ne pouvait pas racheter ce droit. Pourquoi ? Parce qu'il aurait compromis ses valeurs et détruit son héritage. En répondant et exposant sa crainte de détruire son héritage, qu'est-ce qui se passe ? Il dévoile ses valeurs, son égoïsme, son manque de sacrifice, son manque d'amour. Alors il est démasqué devant les anciens et devant le peuple. Ça, c'était le verset 15. Et les a donnés publiquement. Boaz les a donnés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle. C'est ce qu'a fait Jésus. Et il est insupportable pour lui, ce untel, de se compromettre avec Ruth, celle qui vient d'un peuple étranger, mais qui se repent et se soumet à Boaz, le Rédempteur, celui qui a ouvert une nouvelle porte, une brèche. L'ancienne alliance est représentée par Naomi, elle est juive. Il fallait des sacrifices pour couvrir les péchés du peuple juif. Mais maintenant Ruth obtient une nouvelle alliance donnée par Boaz. Rien ne peut faire obstacle, rien. Donc il y a ce refus, c'est mon quatrième point. Il refuse donc ce droit de rachat. Verset 6, hein, celui qui avait le droit de rachat répondit, « Je ne peux pas exercer ce droit de rachat pour mon compte. Sinon, je détruirai mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne peux pas l'exercer. » Il se répète. Et cela est manifeste à tous ceux qui sont là. Cet homme est égoïste, je le répète, il ne veut pas partager son héritage avec les enfants de Ruth. Il est incompatible, il est faux et malhonnête. Boaz n'a aucun compromis avec cet homme, ne fait aucun compromis avec cet homme. Il ne peut pas avoir de lien avec lui, car il n'y a rien en commun avec ce que Dieu nous offre, avec cette vie en sacrifice. Une vie selon ses valeurs, son héritage. Seulement, nous devons tous être prêts à lui confier entièrement notre vie. Ruth était prête à lui confier entièrement sa vie. Pas une partie de sa vie, entièrement sa vie. Si nous confessons nos péchés, si nous reconnaissons Jésus comme Sauveur et Seigneur, alors Satan n'a plus de pouvoir sur nous. Satan est obligé de renoncer à ses droits sur nous. Jésus, par son sacrifice, a vaincu la mort. Celle qui nous condamne, non pas la mort physique, car nous allons tous mourir, sauf si Christ revient, mais celle qui nous condamne et nous rachète, et nous pouvons dire comme Paul dans Romains 8, 38, vous connaissez bien, en effet, nous avons l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est terminé. L'ancien contrat qui nous liait a été cassé par Christ. Né de nouveau, dans une alliance incorruptible, si bien sûr nous demeurons en lui. Pourquoi je dis demeurer en lui? Parce que beaucoup aujourd'hui se donnent à Dieu partiellement, à Jésus, et vivent tantôt selon les règles du monde, tantôt selon les règles de Dieu. Ils pensent être sur le bon chemin, en gardant des idoles de ce monde, des plaisirs, ou exposent autour d'eux un faux évangile, et font fausse route. Je rappelle que Naomi a été attirée par la nourriture d'un autre pays, parce qu'il en manquait. Son mari meurt, ses fils meurent, tout semble partir, car elle s'est réfugiée dans une illusion de bien-être, en cherchant ailleurs sa sécurité. Ma question c'est, te trouves-tu dans une situation similaire où tu n'es pas pleinement en Christ? Où est basée ta foi? Où est basé ton engagement? Parlons maintenant de l'héritage. Quel héritage passeras-tu aux autres, à ta famille de chair et spirituelle? Sera-ce un héritage d'une vie gaspillée, souillé, plein de compromis avec des idoles? Qu'en tireront des générations à venir de cet héritage? N'oublions pas ce qui s'est passé dans les juges. Je reprends simplement quelques versets. Juges 2, verset 10. Toute cette génération alla rejoindre ses ancêtres. Parle des générations qui étaient en Christ, en Dieu. Et après, elle surgit une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. On se demande pourquoi, bien sûr, la transmission n'a pas été opérée. Les Israélites firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et servirent les Baals. Et les Baals d'aujourd'hui, ce sont tout ce qui est loisir, tout ce qui remplace ce que l'on doit à l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, celui qui les avait fait sortir d'Égypte. Il les avait fait sortir d'Égypte. Ils s'étaient quelque part convertis. Et ils survirent d'autres dieux, pris parmi les dieux des peuples qui les entouraient. C'est si facile. Ils se prosternèrent devant eux et irritèrent ainsi l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et servirent Baal et les Astarté. Et un peu plus loin dans Juges 5, verset 6, il est dit à l'époque de Shagar, fils d'Anna, à l'époque de Jaël, les routes étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Et c'est vrai que beaucoup aussi veulent prendre des chemins détournés. Ils ne veulent pas marcher sur ce chemin difficile qui est le chemin de la foi. Même dans la détresse, il nous faut mettre Dieu en premier, l'honorer, l'aimer, le prier, l'adorer, rechercher sa face, le mettre au centre de notre famille, au centre de nos discussions, insister en tout lieu, en tout temps, faire sa volonté et non la nôtre, comme Ruth l'a fait, comme Noémie qui est revenue vers ce sentier, peut-être difficile au départ. Car Dieu nous donne un héritage, des valeurs incorruptibles, indestructibles, que nous devons transmettre par notre façon de vivre et de demeurer en lui. Il veut nous faire entrer dans sa famille, comme celle de Rachel et de Léa, qui sont mentionnées dans le chapitre 4, et qui ont donné naissance à la communauté d'Israël. Et l'Église, l'épouse de Jésus, Ruth devint l'épouse de Boaz. Cette Église qui est cette nouvelle communauté est active si elle reste soumise à son Sauveur et Seigneur, sous la royauté de son Rédempteur. L'assemblage donc de Noémie, la juive, et de Ruth, l'étrangère, la non-juive, et de Boaz, le Rédempteur, forme l'Église. Parce que Jésus-Christ est notre chef. Nous ne sommes pas, je ne suis pas le chef des uns et des autres. Jésus est le chef de l'Église. Jésus est celui qui vient chercher l'épouse. L'histoire se finit par la liste des descendants de Ruth. Descendants qui sont bénis parce qu'il y a eu la transmission, qui ont été instruits et qui ont marché dans les voies de Dieu. C'est l'héritage que nous devons promulguer. Ne salissons pas la valeur de ce rachat du Rédempteur qui a tout sacrifié pour nous à la porte de la ville, à l'extérieur de la ville, qui a négocié sa vie de son sang, de ses meurtrissures, afin de nous racheter. C'est quelque chose d'incroyable. Tout l'or et l'argent du monde n'aurait pas suffi à racheter notre âme. Utilisons-nous ce rachat, cette perle précieuse, d'abord dans notre vie, ensuite dans notre famille et dans notre entourage, ou bien vivons-nous pour ce monde, en quête d'autres solutions, en mettant de côté les instructions de Dieu ? Les temps, vous savez, sont incertains. Quant au retour de Boaz pour la nouvelle et la dernière moisson, Jésus nous trouvera-t-il en train de moissonner comme Boaz a trouvé Ruth qui moissonnait, en train de travailler, en train d'avoir des valeurs qui sont réelles quand Ruth a pris soin de Noémie, de faire valoir ce rachat, où nous trouvera-t-il en train de nous amasser des trésors périssables ? J'aimerais conclure, cette histoire nous amène à considérer deux points essentiels, deux chemins. Premièrement, si tu as soif de quelque chose de réel, de vrai, d'honnête, et que tu as été déçu par le monde qui t'entoure, comme Ruth a été déçue dans son pays, Moab, alors viens et vois, viens et goûte, car l'Éternel est bon, car Dieu est bon, et découvre celui qui veut te racheter. Détourne-toi du contrat du monde. Il a été rendu caduc, il a été cassé. Deuxième chose, si tu as, comme Noémie, quitté le chemin parce que tu pensais mieux trouver ailleurs, alors il est préférable pour toi de revenir avant que ça soit trop tard. Ne cherche pas d'excuses, on peut trouver tous des excuses. Il m'a fait mal, etc. J'étais mal reçu. Ce sont des excuses qui ne tiennent pas. Jésus est le seul chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et tous un jour, nous devrons faire face à Jésus. Et il n'y aura aucune excuse. Ce n'est pas des richesses matérielles que Dieu nous propose, mais bien plus. Change de cap aujourd'hui. Détourne-toi de tes idoles mortes et corruptibles. Et j'ai eu cette pensée de, vous savez, quand on vient à cette porte encore, c'est pourquoi il y avait des aiguilles dans les villes principales d'Israël, du Moyen-Orient, des aiguilles, une aiguille particulièrement. Eh bien, le soir tombé, on fermait la grande porte. Et donc, ceux qui voulaient passer des choses, peut-être, ont fermé les portes parce que c'était dangereux, il y avait des ennemis potentiels. Et donc, celui qui voulait passer avec son chameau devait déshabiller son chameau de toute marchandise pour ne pas y introduire de choses suspectes et pour protéger ainsi la ville de choses qui puissent rentrer en nombre. Eh bien, quand on vient à Jésus, on doit tout déposer. On ne peut entrer vraiment dans ce pardon si on laisse tout déposer à Jésus, si on laisse complètement notre vie. Et Ruth et Naomi, sont venues, elles n'avaient rien. Et Ruth n'avait rien. Et elle a tout déposé devant Boaz. Et elle a été rachetée, bien sûr. Voilà, je vous laisse ce message. J'espère n'avoir pas été très long. Mais réfléchissez, réécoutez, relisez, et vous allez découvrir pour vous-même ce mystère qui est le sacrifice de Christ. La grâce de Dieu au travers de son Fils et ce cadeau merveilleux, ce pardon à travers cette histoire qui est un parallèle formidable avec ce que Jésus a fait pour nous. Amen.